BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir et mieux comprendre le marché chinois, nous allons décrypter les chiffres du PIB et les conséquences de la dégradation de la note de la Chine la semaine dernière par Fitch. Avec vous, Gilles Etcheberry-Garay, bonjour.
Bonjour Anne.
Gilles, vous êtes le directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Avec nous au décryptage, parce que ça nous concerne en tant qu'investisseurs particuliers, ce qui se passe en Chine. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus et qui nous écoutent et qui se disent « Oh là là, moi la Chine, je ne mettrai pas un euro dessus », parlez-nous un peu de pourquoi ça nous concerne.
Je dirais déjà en termes de poids, il y a une émergence puisque la Chine c'est 20% du PIB mondial, c'est un marché qui représente le quart des marchés émergents. Et si on ajoute la Corée et Taïwan qui sont autour, ce parti-là c'est une partie non négligeable des marchés émergents qui aujourd'hui pèsent pratiquement plus que le Japon et pratiquement autant que l'Europe.
Justement, cette part du PIB mondial, la Chine a publié ce matin son PIB en progression de presque de 5,3% en premier trimestre. Un signe encourageant quand on est décideur politique chinois. Quand on est les marchés et qu'on regarde ce chiffre, qu'est-ce qu'on se dit ?
C'est un chiffre qui est, c'était le minimum syndical. Puisque c'était ce qui avait été annoncé, donc en Chine, généralement, ce qui est annoncé est plus ou moins respecté. Après, le chiffre n'est pas de très bonne qualité, puisqu'on avait un rebond assez significatif en janvier-février, et là, on voit un essoufflement et la production industrielle et la consommation, ce qui n'est pas un très bon signe pour la suite des événements. La Chine devrait faire 5%, mais comme je l'ai dit, c'est le minimum syndical et beaucoup d'investissements publics, pas forcément très productifs.
Ouais. Il s'agit d'un bon chiffre, sauf que quand on le décortique, on voit qu'il a été porté par une croissance assez soutenue au moment du nouvel an chinois, qui visuellement à cheval entre janvier et février, et qu'après, effectivement, sur la fin du trimestre, ça se ralentit un petit peu. Bon, on est obligé de parler de la décision de Fitch la semaine dernière de baisser, de dégrader la note de la Chine. Ça, côté politique chinois, on n'a pas trop aimé. Comment on lit ce chiffre comment on lit cette dégradation quand on est investisseur, particulier ?
Si on voit Fitch, y a un problème dans le modèle chinois, c'est clair. Le modèle chinois est cassé économiquement, cassé démographiquement, probablement aussi politiquement, puisque on a quand même eu des soucis sur certains secteurs en bourse. Et donc effectivement, Fitch reflète ça dans la dégradation, puisque vous avez une Chine un peu à deux vitesses, avec des provinces qui continuent à se porter assez bien en Shanghai, sur la bande côtière, et tout l'intérieur de la Chine qui s'ouvre de plus en plus, avec un intérieur du pays qui se vide progressivement, des dettes qui s'accumulent. Et c'est ça que reflète Fitch.
L'agence Fitch qui a abaissé à négative la perspective de crédit de Chine. Vous le dites, un des sous-jacents de l'économie chinoise, c'est l'immobilier. L'immobilier qui inquiète parce que régulièrement traité à la une des médias économiques, on a beaucoup parlé d'Evergrande. Qu'est-ce qu'il faut retenir là, mi-avril, de la situation de l'immobilier en Chine ?
La situation, la bulle a enfin explosé et je dirais qu'elle n'est pas bonne et elle est en plus aggravée par le fait d'une chose qui commence à un peu à arriver malgré les statistiques, c'est que les perspectives démographiques chinoises sont très mauvaises. Ouais. En 2023, pour la première fois, avec 5-6 ans d'avance, l'Inde a dépassé la Chine. On a peut-être perdu la population en 2023-2024. Donc aujourd'hui, je crois qu'un officiel ou officieux chinois disait qu'ils avaient construit plus de maisons que de Chinois que de nécessaire. Donc quelque part, la bulle immobilière qui a été un peu la sauce secrète de la croissance chinoise pendant les 10 dernières années est derrière nous et ne va pas revenir. Alors on peut avoir toujours des choses du côté de Shanghai et tout ça où les gens s'accumulent, mais en tout cas à l'échelle du pays, c'est quelque chose qui est derrière nous et qui ne va pas redémarrer.
On a construit plus de maisons qu'il n'y a de Chinois.
Ou qu'il y aura Chinois. La population chinoise, ça perdra 100 millions d'habitants d'ici 2050, normalement.
Bon, le mot de l'immobilier, il y a aussi évidemment le chômage des jeunes qui pèse. Finalement, quand on voit, quand on parle de la Chine, on a l'impression que le monde politique a envie de régler les problèmes économiques, mais avec des mesures politiques. Et on le voit bien que ça marche moyennement.
Oui. Je dirais que surtout avec des mesures à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de ne pas changer le modèle. qui aujourd'hui touchent finalement au mur. Je veux dire, je dis tout à l'heure, la Chine, c'est 20% du PNB mondial, c'est 32% de la production industrielle et 13% de la consommation. Il y a vraiment un écart entre ce qu'ils produisent et ce qu'ils consomment, ce qui est le nœud du problème. Et aujourd'hui, la direction chinoise ne veut pas essayer de corriger ça en augmentant la consommation des ménages, mais veut juste simplement changer d'endroit où ils investissent. Avant, c'était donc l'immobilier, après maintenant, c'est le public. Et là, ils veulent même continuer à accroître leur présence industrielle, ce qui ne sera pas possible, puisque les autres pays ne vont pas laisser faire.
Le problème de la Chine, c'est que les gens économisent trop. Ils économisent trop. L'immobilier cristallise un peu cette volonté d'économie. Finalement, on préfère investir sur quelque chose qui va rester plutôt que dans de la consommation. Ce qui manque à la Chine, c'est pas finalement un filet de sécurité sociale.
Si, mais pour citer les révolutionnaires américains, no taxation without public representation. C'est-à-dire qu'augmenter le filet social, c'est aussi augmenter les impôts, c'est aussi prendre le risque de la démocratisation de la Chinois. Et c'est ça qu'essaie d'éviter Xi Jinping. Et c'est là où le modèle, effectivement, est aussi cassé politiquement. C'est que quand on voit que la partie peut anéantir des secteurs entiers en bourse, comme l'éducation, techno, pour des raisons politiques, enfin voilà, on est un peu coincé là-dessus. Donc, c'est ça aussi la clé. Mais effectivement, la Chine pourrait s'en sortir en accroissant les filets de sécurité et en augmentant la consommation des ménages. Parce que c'est pas un choix des ménages. Hein. Les ménages sont contraints. Et tout le modèle chinois, c'était de contraindre les ménages pour investir et exporter. Et c'est là où on arrive à la fin de ce modèle.
La difficulté de mettre en place un modèle de consommation dirigé par le consommateur, pour le dire en mauvais franglais, ça nous amène à un parallèle avec le Japon. On lit ça et là des analyses qui disent que la Chine serait en train de se japoniser. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de perspective historique quand on dit japonisation ? C'est une comparaison avec le Japon des années 90.
Oui, avec un sommet de boursiers qui a été battu ce trimestre, avec pas le même monnaie, mais qui a mis quasiment 40 ans à être battu. Oui, c'est un modèle d'exportation, donc de contraindre la consommation intérieure, qui après permet de développer les exportations, mais qui se heurte à un moment à une nécessité de rééquilibrer. Donc les Japonais en 90 avaient des accords du Plaza et du Louvre, on avait forcé à monter le yen, et donc on avait effectivement stimulé la consommation intérieure japonaise, qui avait fini dans une bulle immobilière énorme. Et derrière, on a une longue période d'hiver japonais. Sachant deux choses, c'est que il y a aussi un problème démographique. Il y a un parallèle démographique, puisque le Japon a vu sa population commencer à diminuer depuis les années 2000-2010. La seule différence, je dirais, aujourd'hui, et qui rend la Chine un peu plus dangereuse là-dessus, c'est que le Parti libéral-démocrate, qui était au pouvoir au Japon dans la période, c'était pas un paragon de démocratie, mais il respectait les élections. Et donc, il n'y a pas cette capacité, au nom de la sécurité nationale, à anéantir, comme je disais tout à l'heure, des secteurs entiers en bourse. Donc, je dirais, la japonisation chinoise est quelque part un peu plus dangereuse de ce point de vue-là, puisqu'il y a plus un risque politique qu'il n'y avait pas vraiment au Japon.
La différence aussi, elle se voit au niveau du potentiel d'urbanisation et de développement, parce que la Chine des années 2020 est quand même moins développée, enfin bien moins développée que le Japon des années 90.
Alors,
il y en a plus sous la pédale en Chine, je veux dire, en termes de développement, peut-être.
Quand on va à Shanghai, alors je n'ai pas eu l'occasion d'y aller dernièrement, mais quand on va à Shanghai ou Canton, ce qu'on peut voir, c'est que les voitures électriques, enfin, on a quand même sur les métropoles, je dirais, de la côte, un niveau de richesse. On est à peu près à $25,000 par habitant sur cet endroit-là, qui est le seuil de démocratisation. Je veux dire, on est sur des niveaux de richesse qui sont.
Mais tout le reste du territoire.
Tout le reste
du territoire.
Les
villes tiers 3, tiers 4.
Voilà, est abandonné. Et aujourd'hui, ce que vous parlez de Fitch, c'est ce qu'on fait de Fitch. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une dichotomie de plus en plus grande entre une bande côtière qui a des niveaux de $25,000 de PNB par habitant, un pays qui a 12 000 et donc le reste qui est autour de 8-10 000.
Il y a aussi le sujet une japonisation de la Chine. Si elle s'avérait, si elle se réalisait, quelles seraient les conséquences pour nous côté européen, vous observez, peut-être dans votre clientèle très simplement, un intérêt pour la Chine en ce moment? On dit que c'est pas cher d'acheter la Chine.
Alors, c'est un peu l'inverse. Nous on avait une vision négative du marché chinois, très très clairement, jusqu'à il y a un mois à peu près, puisqu'il y a un mois on était revenu 15 ans en arrière, ce qui montre d'ailleurs qu'on parle de PNB, de croissance, mais on voit
que... Oui, puisque le MSCI China est à ses niveaux d'il y a 15 ans.
Donc, voilà, donc on voit bien qu'il y a un décalage entre la croissance économique, on parle de PNB, et parce que le PNB chinois est quand même beaucoup plus élevé qu'il y a 15 ans, et la valeur boursière. Donc nous, on était pour négatif pour toute cette vision d'un modèle de cassé et d'un risque politique. En revanche, quand on revient 15 ans en arrière, on peut estimer qu'on a touché un peu, si vous me permettez l'expression, le fond de la piscine. Mmh. Et donc nous, on a investi un peu à contre-courant, donc on a acheté des actions chinoises il y a un mois. On est légèrement gagnant, je trouve ça un peu poussif, on se pose la question de savoir si on va conserver la position. Par contre, je rencontre pas mal de gens, effectivement, qui post-Covid avaient acheté la Chine en espérant rebond, qui a eu lieu au début, mais qui s'est vite effacé, qui maintenant donc sont au plus bas. Donc, et si on fait un parallèle avec le Japon...
Justement, est-ce que le marché actions chinois est comparable au marché actions japonais?
Pour nous, il est un peu comparable, on a les mêmes dynamiques, les mêmes problématiques. Le Nikkei a perdu... trois quarts de sa valeur entre 89 et 90, et après a eu des rebonds de 30%. Et quelque part, c'est ce qu'on peut jouer à techniquement. C'est un rebond. Si on gagne 10-20% sur la Chine, on sera très content, mais on restera pas sur le marché à long terme.
Donc votre recommandation chez Elkano, c'est la Chine, mais à court terme.
À court terme, si on a acheté donc il y a un mois, après, si ça rebondit un peu, oui, plutôt de sortir du marché. Oui, clairement, on est sur un marché qui a des problèmes structurels dont on voit pas la résolution à court terme. Et après, on a un peu, là, on voit la devise qui commence à lâcher un peu. Bon, il est possible que... De toute façon, la volonté de faire du tout export sur les voitures électriques, tout ça, va se heurter aux résistances mondiales. Donc, ça va être un modèle qui va, à un moment, tourner à vide.
Et oui, parce qu'une des solutions pour la Chine, ce serait d'exporter plus. Mais exporter quoi et à qui?
Voilà, surtout à qui? Quoi, ils savent, hein, c'est les voitures électriques, c'est les panneaux solaires, tout ça, ils ont listé. Mais c'est surtout à qui? Parce que les gens sont... Même le Brésil fait du anti-dumping, la Turquie, enfin, les Américains. Les deux candidats ont annoncé qu'ils voulaient interdire américains les voitures japonaises, chinoises, au moins 10 000 dollars électriques. Enfin, voilà, et même l'Europe s'y met aujourd'hui sur les panneaux solaires. Donc, clairement, il y a ce modèle... a du mal à trouver un débouché.
Voilà, ce décryptage qu'on pouvait faire de la Chine avec vous, Gilles Etcheberry-Garay, de l'équipe Elkano AM. Et puis peut-être un chiffre pour finir, hein, la Apple qui assemble aujourd'hui un iPhone sur 7 en Inde. Un iPhone sur 7 qui est
aujourd'hui. L'Inde est en train de monter, hein, clairement. Alors, nous, on a fait un trade qui était un peu opposé parce que l'Inde était devenue assez chère et la Chine pas chère. Mais globalement, à moyen terme, oui, aujourd'hui, l'Inde, c'est 17% des marchés émergents de MSCI Emerging. On a plutôt une tendance à voir, je rappellerai que le Japon représentait 50% du MSCI World en 1989. On voit plutôt la part de la Chine régresser à moyen terme et la part de l'Inde augmenter à moyen terme. Et d'autres marchés.
Voilà ce qu'on pouvait dire mi-avril. Vous reviendrez nous voir, Gilles. On continuera à filer ces parallèles, à décrypter l'Asie et les différents pays du monde qui ont un impact ultimement sur nous, investisseurs particuliers, ici, en France. Merci à toute l'équipe d'Elkano Asset Management. Cette séquence est retrouvée en podcast et en replay si vous l'avez attrapée en cours de route. La comparaison avec le Japon des années 90 et puis les conséquences de la dégradation de la note de crédit par Fitch la semaine dernière. Et bien sûr, ce PIB chinois. Que signifie-t-il ?